pose une question, j'y réponds autant que possible tout de suite. Est-ce que la découverte de l'immortalité de l'âme dans une vision de sagesse me donne un nouveau principe pour l'éthique? Nouveau principe. C'est cette nouvelle extension, vous voyez, que va donner le point de vue de la, ce que j'appelle l'éthique religieuse. L'éthique religieuse présuppose au point de vue de l'immortalité. Parce que s'il n'y avait pas l'immortalité, il n'y aurait pas l'éthique religieuse. Donc la condition sine qua non pour qu'il y ait une éthique religieuse, c'est du reste pour ça que toutes les traditions religieuses parlent de l'immortalité de l'âme, d'une façon ou d'une autre, hein. Les transformations multiples et diverses, la transmigration, et puis des choses comme ça, mais au fond, c'est toujours l'immortalité. Alors, je crois que l'immortalité est la condition sine qua non pour qu'il y ait éthique religieuse. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'éthique religieuse et l'éthique humaine? Est-ce que c'est une nouvelle éthique au plan philosophique? Ou tout simplement une extension d'éthique. Vous voyez ? Alors, c'est des niveaux différents. C'est pour ça que je dis des niveaux différents d'éthique. Parce que ça part toujours de la même chose. Il y a une finalité humaine. Première finalité, c'est l'amitié que nous découvrons. La seconde finalité qui va beaucoup plus loin, et je suis tout à fait d'accord, ça donne une profondeur à l'éthique qui va très loin. L'éthique n'est parfaitement éthique humaine que dans l'éthique religieuse. Parce que c'est évident que l'éthique n'est parfaitement éthique humaine que dans l'éthique religieuse. Parce que dans l'éthique uniquement nouée autour de l'amitié, vous comprenez qu'elle n'est pas entièrement humaine, puisque ce n'est qu'une finalité secondaire, ce n'est pas la finalité plénière. Le bonheur plénier est dans l'adoration et la contemplation. La stabilité que l'homme va avoir par l'adoration et la contemplation donne à l'éthique une profondeur. Alors quand je dis extension, vous voyez, c'est d'abord une extension, mais c'est en même temps une profondeur nouvelle. Alors c'est le même principe et c'est pas le même principe. C'est le même principe parce que c'est le principe de la causalité finale. Toute éthique est basée sur la causalité finale. Mais il est évident que la causalité finale, quand elle regarde Dieu ou quand elle regarde l'homme, il y a une dimension totalement différente. Vous voyez ? Donc il y a une profondeur, une intensité toute nouvelle. Toute l'éthique humaine est comme renouvelée. C'est ce que nous essaierons de voir progressivement. Oui ? Philosophique, oui. Oui, philosophique, philosophique dans le sens scientifique d'Aristote. Oui, parce que, vous voyez, pour que l'éthique existe, autrement dit, pour qu'il y ait une philosophie morale, il faut qu'il y ait une causalité finale, que nous soyons capables de saisir un bien qui, pour nous, est fin. Tant que nous n'avons pas saisi un bien qui, pour nous, est fin, il n'y a pas d'éthique, au sens propre. Parce que l'homme est capable de découvrir un bien qui est sa propre fin, qu'à partir de ce moment-là, le problème moral se pose. Donc, le problème moral est premièrement autour de ces relations de l'homme avec l'homme. Et ceci grâce à l'amour d'amitié. Donc, je dirais que l'amour d'amitié structure vraiment l'éthique morale, la philosophie morale. C'est la structure. Je découvre un principe de finalité qui va beaucoup plus loin dans l'ordre de l'intensité, puisque ce n'est plus un homme qui est mon bien, mais c'est Dieu qui devient mon bien. Je suis capable de l'adorer, de l'aimer et de le contempler. L'adoration étant du reste, hein. Le premier amour. Je suis donc capable d'avoir une relation nouvelle, personnelle, avec un bien qui est ma fin au sens le plus fort. ce qui ne peut pas disparaître. Évidemment, je ne me vois pas, et donc je reste vis-à-vis de ce bien dans une relation de très grande pauvreté et de très grand dépouillement, mais je suis capable de l'atteindre. Et donc il y a, à partir de ce moment-là, je dirais que l'éthique, la philosophie morale, prend une nouvelle dimension, c'est ça que je disais, des niveaux différents, une nouvelle dimension, une profondeur nouvelle, une extension nouvelle. Mais je crois qu'on doit dire que c'est comme deux moments de la même philosophie morale. Oui, deux moments, un moment qui n'est pas encore parfait, mais qui pourtant a sa structure propre, puisqu'il y a vraiment une finalité propre. S'il n'y avait pas de finalité propre, ce serait comme le bien commun. Pour le bien commun, il n'y a pas de finalité nouvelle. C'est dans ce sens-là que je crois qu'on doit dire que la philosophie politique ne nous donne pas au sens rigoureux une nouvelle partie de la philosophie. Que c'est à l'intérieur de l'éthique que nous découvrons de l'éthique humaine, que nous découvrons tout un secteur important, parce que c'est toute l'éducation, c'est tout le devenir. Mais ça n'a pas de nouveau principe au sens absolu. Le bien commun n'est pas un nouveau principe propre de finalité. Ça ne finalise pas au sens absolu. Donc la philosophie politique n'est pas une nouvelle philosophie, c'est plutôt intégrer dans l'éthique une dimension, alors là vraiment une dimension, simplement de l'extension, vous voyez. C'est du côté de l'extension puisque c'est du côté du conditionnement. Pour me donner le conditionnement humain. L'être humain est un être en devenir. Et l'être humain en devenir va pouvoir comprendre qu'il a besoin de l'éducation première de la famille, d'une éducation qui va se prolonger au point de vue de la culture, pour permettre progressivement de se finaliser dans l'amitié. Mais l'amitié est un au-delà de la philosophie politique, puisque l'amitié n'est pas politique au sens fort, elle est personnelle. Et tout le point de vue politique est soumis, vous voyez, à ce point de vue proprement d'amitié. De sorte que je crois qu'on doit dire que la philosophie politique, c'est ce que nous faisons à Saint-Jodard cette année-ci, et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus pour essayer, parce que quand on doit l'enseigner, j'ai jamais enseigné la philosophie politique. Alors quand on n'enseigne pas quelque chose, on répète des tas de choses, mais fais pas attention, dès qu'on l'enseigne, on est obligé de préciser énormément et se demander si vraiment il y a une philosophie politique. Je l'ai dit souvent, philosophie politique, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pratiquement, c'est un secteur nouveau à l'intérieur de la philosophie éthique. Alors, ça fait beaucoup mieux comprendre la position d'Aristote. Pour moi, ça m'a beaucoup éclairé sur la position d'Aristote, c'est-à-dire les rapports entre l'éthique et la politique. Surtout quand on voit Platon avant. Quand on voit la manière dont Platon traite la République, c'est très très curieux, parce qu'alors pour lui c'est vraiment la République, c'est le juste inverse, c'est la politique qui couvre l'éthique, tandis que pour Aristote c'est l'éthique qui couvre la politique, si j'ose dire. S'il n'y avait pas d'éthique, il n'y aurait pas de politique. Oui. Alors, on a une triple relation, vous voyez, et c'est assez délicat et assez intéressant à voir. Nous avons le conditionnement humain dans ce qu'il a tout parfait, mais dans la politique. Ce conditionnement humain est en vue d'une découverte d'une finalité propre, d'une fin propre, qui est la personne humaine. La personne humaine face à une autre personne humaine. On est deux. Donc on n'est jamais seul. Et c'est l'éthique qui se développe de cette manière-là dans l'ordre. Là, il y a vraiment un principe nouveau, une fin nouvelle, donc un principe nouveau parce qu'il y a une fin nouvelle. Puis, le conditionnement est enveloppé en quelque sorte dans cette fin propre et dans cette philosophie éthique. Donc ici, je dirais, de la philosophie éthique la partie politique, qui a ses exigences propres, qui a ses lois propres. Ce sont des lois. Le gouvernement, telle manière de gouvernement, ce n'est pas un principe. Que ce soit un gouvernement monarchique ou un gouvernement démocratique, ce n'est pas un principe. Ce sont des lois qui conditionnent l'homme, le citoyen, de telle manière. Et là, il y a des lois qui sont bonnes et des lois mauvaises. C'est sûr. Et les lois sont en vue de quoi ? Sont tout simplement en vue de conserver l'homme dans la vertu ou d'éduquer l'homme pour atteindre la vertu. Donc il y a un lien entre loi et vertu. Mais vous voyez que les lois permettent la vertu, ou maintiennent la vertu, ça éduque, mais l'acte humain comme tel, il est au-delà de la politique. L'acte humain comme tel, il relève justement de l'éthique personnelle. C'est l'éthique personnelle qui étudie ce que c'est que l'acte humain. L'acte humain n'est pas étudié en politique. C'est présupposé connu en politique, l'acte humain. Mais la politique éduque et regarde l'éducation. La taille des gars, c'est le point de vue politique. Et c'est le grand point de vue des anciens. Et on comprend très bien, parce que c'est par là que la politique se rattache à la philosophie. S'il n'y avait pas l'éducation, les rapports entre le point de vue politique et le point de vue éthique seraient très larges. Une politique qui n'est qu'au niveau économique est très loin d'une philosophie. Elle est très lointaine d'une philosophie. Elle est très proche du facturé. Elle est très proche de l'efficience. Mais elle est très loin du point de vue d'une politique. Par l'éducation et en raison de l'éducation. Et l'éducation, c'est le point de vue de vertu, il ne faut pas l'oublier. S'il y a une éducation, c'est pour acquérir des vertus. Et les vertus me permettent d'atteindre ma finalité, c'est-à-dire la moralité. Les vertus sont en vue de la moralité. Un homme qui n'est pas vertueux, les amitiés ne tiennent pas. C'est grâce à la vertu que la moralité tient. Parce que grâce à la vertu, il y a un dépassement d'un égocentrisme. Et quand vous découvrez que l'ami, au fond, ne vous aime pas vraiment, mais que c'est lui qui l'aime en réalité, ça ne tient pas. Ce qu'Aristote appelle l'amour des amitiés jouissantes, ça ne tient pas. Ça ne dure qu'un temps. Pour que l'amour d'amitié dure, il faut la vertu, absolument nécessaire. C'est-à-dire ce qui me permet de me dépasser et d'aimer vraiment l'autre pour l'autre. Donc là, il y a vraiment la découverte d'une fin propre. Tandis que dans l'amour de jouissance, il n'y a pas de découverte de finalité propre. C'est moi, en définitive, qui me cherche. Et à ce moment-là, il n'y a pas de finalité, donc il n'y a pas d'éthique, au sens propre. Il n'y a pas de philosophie éthique. Une philosophie éthique ne peut pas être finalisée par la jouissance. Une philosophie éthique ne peut pas être finalisée par l'utile. Tout ça est de l'ordre du conditionnement. La jouissance, comme l'utilité, c'est de l'ordre du conditionnement, ça ne fait pas atteindre la fin. Il faut découvrir une fin pour qu'il y ait vraiment une philosophie éthique. Alors, cette philosophie éthique va prendre une pénétration nouvelle lorsque je découvre une fin nouvelle qui dure le Créateur. Il y a une nouvelle relation de l'homme vers Dieu, alors ça c'est l'éthique religieuse. Et c'est pour ça que l'éthique religieuse, c'est l'éthique humaine plénière, parce qu'elle me fait atteindre un bonheur possible parfait. Et donc une fin, au sens très fort, une fin transcendante. Dans quelle mesure, dans l'amour d'amitié, j'atteins une fin transcendante ? Très délicat. L'ami est toujours quelque chose de plus, il est mon bien, mais il me transcende d'une manière assez particulière. Hein. Quand on est dans la découverte première de l'amour, on dit « Ah, oh, j'ai découvert des choses qui me transcendent Dieu petit à petit quand on connaît Dieu. Je croyais que c'était le bon Dieu, mais c'est pas le bon Dieu du tout. Il est limité comme moi, et au moment où je voudrais m'appuyer sur lui, pas du tout, ça craque. Voyez, alors on s'aperçoit que l'amour d'amitié demeure, et l'ami est toujours quand même quelqu'un qui est mon bien, donc en tant qu'il est mon bien, il me dépasse, mais je ne peux pas dire que c'est une fin transcendante. Tandis que Dieu est une fin transcendante, c'est la source, c'est le créateur, donc c'est la source. C'est la source, c'est la fin, c'est l'alpha et l'oméga. Et il est source de mon âme immortelle. Oui. C'est par la création que je découvre le point de vue de l'âme immortelle, et c'est à partir de ce moment-là que je découvre ce lien nouveau qui a en moi quelque chose qui est au-delà du temps. Par l'adoration, je rejoins Dieu. Et je rejoins cette source, donc l'alpha et l'oméga, l'alpha et l'oméga, c'est vraiment cette source première. C'est la source première qui est alpha, le point de départ est terminé. C'est pour ça que l'éthique humaine ne découvre toute sa dimension de philosophie éthique que grâce au point de vue proprement religieux. Donc l'adoration et la contemplation. C'est ça qui donne la stabilité à l'éthique. Et donc il y a trois aspects. Le conditionnement politique, l'éthique proprement humaine, et l'éthique du moins proprement humaine, l'éthique qui se finalise dans l'ordre de l'amour d'amitié, et puis le point de vue de la finalité parfaite, le bonheur parfait dans l'adoration et la contemplation. Oui. Alors on pourrait dire, vous voyez ce qu'on avait dit déjà un petit peu, on pourrait dire la sagesse est à la philosophie première, métaphysique, ce que l'éthique religieuse est à l'éthique proprement humaine. On avait posé le problème toujours. Mais ça, je crois qu'on peut faire cette analogie. Parce qu'au fond, on est ici en présence d'une sagesse. Sagesse pratique, mais c'est une sagesse. C'est une sagesse. Il y a une relation directe avec Dieu. Donc il s'agit d'une relation directe avec la cause ultime. Et puisque c'est une sagesse, c'est en ce sens qu'il y a deux sagesses. Il y a une sagesse spéculative et une sagesse pratique. Oui. Ça, c'est quand même très important, parce que ça fait comprendre comment il peut y avoir une théologie scientifique et une théologie mystique, à cause de ce point de vue de la sagesse pratique. S'il n'y avait pas de sagesse pratique, il n'y aurait pas de théologie mystique. On ne pourrait pas. Et grâce à ça, on peut, parce que de fait, nous pouvons avoir une connaissance pratique de Dieu, dans le sens de l'adoration et de la contemplation. Et ceci, du reste, sa sagesse pratique, et en même temps ça rejoint la sagesse contemplative, parce que bon, sagesse pratique dans l'ordre de l'adoration, sagesse spéculative dans l'ordre de la contemplation. C'est dans ce sens-là que, pour Aristote, la contemplation termine l'éthique, et le point de vue proprement métaphysique se termine dans une certaine considération sur Dieu, c'est le contenu de cette contemplation, tandis qu'on le vit en sagesse pratique. Ça, vous voyez bien, parce que c'est important de bien saisir ces liens entre l'éthique humaine de l'amour d'amitié, le point de vue politique et le point de vue proprement de l'éthique religieuse. Bon. Pas d'autres questions ? Continuez.
Oui.
Dans que l'amour d'amitié me fait atteindre l'ami comme mon bien. Et ce bien n'est pas seulement un bien utile, pas seulement un bien qui me réjouit, mais un bien qui me vitalise. Pourquoi ? Parce que l'ami suscite en moi ce dépassement par rapport à moi-même qui me permet de me donner. Oui. Donc, l'ami est vraiment un bien personnel et un bien qui a une certaine valeur absolue, en tant que personne humaine.
Oui. En comparaison avec le sens qu'on donne quand on dit que l'acte d'adoration est le principe de l'éthique religieuse.
Oui, mais bon, le principe de l'éthique religieuse, je ne dis pas que ce n'est pas
l'acte d'adoration comme tel qui est principe, c'est la finalité. Je suis dans une philosophie, la philosophie morale n'existe que dans la mesure où on découvre un principe propre qui est une fin. Alors, c'est ou l'ami ou Dieu. C'est-à-dire, c'est toujours une personne, mais c'est toujours une personne. C'est ou une personne humaine ou c'est Dieu qui fait l'amour. Ah oui, alors je peux dire que c'est l'amour d'amitié qui nous relie à cette fin, et c'est l'adoration et la contemplation qui nous relie à cette fin. Et en ce sens-là, je peux dire que l'adoration me fait découvrir proprement cette nouvelle dimension de l'éthique religieuse. Je ne dirais pas que l'adoration est principale, parce que ça marche de moi-même.
Le premier acte.
Le premier acte. Le premier acte, c'est le premier. Comme l'amour d'amitié implique un premier acte qui est un amour à l'égard du bien, l'amour d'amitié, l'adoration implique un amour nouveau, un petit nouveau à l'égard du bien. Je crois que c'est important d'essayer de comprendre ce que représente dans cette attitude, dans cette dimension de l'éthique religieuse, ce premier moment de l'éthique religieuse. Qui est l'adoration. À partir de laquelle va naître la vertu de religion. Alors, je vous renvoie à saint Thomas, puisque on devrait se mettre à regarder un peu, ce serait très intéressant. Je vais regarder pour vous la vertu de religion. Je reprenais, parce que quand j'ai lu quand j'ai étudié dans saint Thomas la vertu de religion, on s'aperçoit cette chose curieuse, n'est-ce pas, que vous avez dans la vertu de religion. Saint Thomas étudie d'abord ce que c'est que la vertu de religion. Il étudie les vertus, toujours. Mais en dessous des vertus, il y a les actes. Et c'est ça qui fait que nous sommes en théologie, et non pas en philosophie morale. On verra la différence entre une philosophie morale chrétienne et une théologie morale. Là, on verra ça. Et ce que je regarde ici maintenant, c'est que, de fait, je découvre, au plan philosophique, je découvre en premier lieu un acte nouveau, d'un type nouveau que j'appelle l'adoration. Et c'est l'adoration qui me fait comprendre ce qu'est la vertu de religion. Tandis que un théologien part de la foi, il est bien évident qu'en partant de la foi et de la tradition, on parle de la vertu de religion. Regardez dans l'Écriture. Et alors, à partir de là, on regarde les actes de la vertu de religion. Les actes de la vertu de religion. Saint Thomas met en premier lieu la dévotion, puis la prière, troisième acte, l'adoration, quatrième, les sacrifices. Puis après, les dîmes. On voit très très bien nous acheter. C'est lointain, toi, c'est vrai. Alors, ce qui m'intéresse ici, vous voyez, je crois que c'est quand même intéressant, puisque un jour, en théologie morale, vous lirez la vertu de religion. En voyant l'éthique religieuse, se mettre à étudier la vertu de religion telle que saint Thomas la donne, pour mieux comprendre toujours la différence entre la sagesse philosophique et la sagesse théologique. Sur tous les bouts de la vertu. Et voir comme ça ce qu'on représente exactement les deux. C'est très important, surtout quand on fait des comparaisons avec les autres religions. La vertu de religion chrétienne, la vertu de religion dans d'autres aspects, dans l'Inde. On peut voir les différents aspects de la vertu de religion et voir des modalités différentes de la vertu de religion. Spécifiquement, c'est toujours la vertu de religion. Mais il y a des modalités différentes. Alors, il est intéressant de voir que regardant la vertu de religion, saint Amano dit aux sciences, je ne suis pas parti de la religion, c'est curieux. D'ailleurs, c'est pas étonnant, vous n'avez pas la dévotion, vous êtes parti de la religion. Mais, je suis marié, c'est saint Thomas part de la dévotion. Dévotion, puis il regarde la prière. Et en troisième lieu, l'adoration. Ça, c'est le cri de la bête qui prie de l'eau. La prière. Alors, vous avez donc cet ordre partant de la vertu de religion. Saint Thomas part de la vertu de religion. Dévotion, prière, adoration. Pourquoi ? Je me pose la question. Je ne sais pas si vous pourrez y répondre. Pourquoi, quand il s'agit de notre étude ici, je vais parler de l'adoration. Personne n'a réagi. Très bien, on a pris l'adoration. Voici, je prends l'adoration. On part de l'adoration. Et je dis que de l'adoration va naître en nous une vertu, après avoir fait une série d'actes d'adoration, petit à petit naît la vertu de religion. Vertu acquise. Et vous devenez religieux dans la mesure même, vous devenez religieux dans la mesure même où vous faites des actes d'adoration. C'est comme ça qu'on pousse en nous l'attitude religieuse. C'est par l'adoration. Quelqu'un qui n'adore, qui n'a jamais adoré de sa vie, ça se rend compte maintenant. Ça se voit. Vous en enverrez, des personnes qui n'ont jamais adoré leur vie, qui ne savent pas ce que c'est. N'ayant jamais adoré, il n'y a aucun développement religieux. Pas du tout. Dieu, pas ce que ça veut dire. On leur demande Dieu, je ne sais pas. Les petits sauvages. Mais dans les pays sauvages, il y a des traditions religieuses, ils sont beaucoup plus religieux. On trouve un aspect religieux beaucoup plus grand dans les pays qui ont été christianisés que dans les pays qui n'ont pas été. Ça fait partie d'un très grand mystère. C'est un fait. C'est qu'on trouve actuellement des personnes qui ne savent absolument pas ce que représente le développement religieux, qui n'ont jamais adoré leur vie. Quelqu'un qui n'a jamais adoré de sa vie, il n'a plus aucun développement religieux. C'est pas ce que c'est. Il faut savoir ce que ça représente. Alors, pourquoi je hais à partir de l'adoration et non pas à partir de dévotion ? Pourquoi je dis que dans une étude de philosophie, la question que je pose, je vous la pose en premier lieu, et je vous la pose aussi en premier lieu avant de vous la poser. Eh bien, pourquoi dans une philosophie morale religieuse, je dis que la première chose, ayant découvert l'existence d'un être premier, ayant découvert le point de vue de la création, cette dépendance, la première chose consiste à reconnaître notre dépendance à l'égard de l'être premier, d'aimer cette dépendance, et donc l'adorer. Qu'est-ce que c'est que l'adoration ? L'adoration, c'est reconnaître notre dépendance radicale à l'égard d'un être premier, qui est source de notre être, source de notre vie, source de notre intelligence et de notre amour. Ça, c'est l'adoration. Et on aime cette dépendance, et en aimant cette dépendance, on s'offre. L'adoration prend des modalités différentes, mais je crois que c'est le premier moment de l'attitude religieuse de l'homme. C'est le premier amour de l'homme vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son Créateur. C'est le premier moment, c'est l'orientation, l'ordre de l'homme. Qui parle de la dévotion.
Pour saint Thomas, quand même, la dévotion, est-ce que vous appelez l'adoration ?
Ah non. Non.
C'est un acte par lequel on s'ordonne prendre.
On se relie. La dévotion, c'est le relier. C'est pas pour dire que c'est l'acte de l'adoration. Alors, il ne prie pas l'adoration.
L'acte du corps, pour lui.
Ah, l'acte du corps.
L'adoration va impliquer tout, c'est sûr. La dévotion est un acte plus intérieur. L'adoration est la dévotion est un acte plus intérieur, tandis que le point de vue de l'adoration implique le point de vue de l'âme du corps, parce que c'est l'être. Alors c'est un point de vue philosophique. Point de vue philosophique, l'adoration, je dis, l'adoration est une dimension cosmique. Parce que c'est vous-même, c'est tout vous-même, c'est tout votre être. Parce que vous le découvrez à partir de. Vous le découvrez à partir de votre dépendance en être. Si vous le découvrez à partir de votre dépendance en être, c'est tout votre être qui est relié à Dieu. Et c'est pour ça que c'est un acte d'adoration. Ce n'est pas la dévotion.
Vous voyez ? Vous touchez presque en disant ça. Vous touchez presque la réponse. Oui ?
C'est la parole du psaume qui dit « Adorer Dieu est la base du savoir ».
Oui, c'est sûrement. « Adorer Dieu est la base du savoir ». Et il est en même temps, si vous voulez, la première démarche spirituelle. Et c'est tout l'être. C'est pour ça que c'est toujours une dimension cosmique. On adore sur les hauts lieux, on adore dans des lieux particuliers. Il y a toujours ça. Et que dans l'adoration, spontanément, notre corps étant impliqué dedans, et il y a une attitude corporelle. On n'adore pas étant assis dans un bon fauteuil. Normalement, ça ne va pas. Il faut être très dévoué, je ne sais pas, très dévoué. je ne sais pas si c'est possible. Mais au fond, l'adoration implique nécessairement l'attitude du corps. Et notre corps est impliqué dedans. Alors, qu'est-ce que vous diriez ? Parce que c'est, je crois intéressant, c'est qu'au point de vue philosophique, vous remontez à Dieu, vous découvrez. Vous découvrez cette attitude dépendante à l'égard d'un être premier. Et vous reconnaissez que vous devez remonter vers lui. En reconnaissant la dépendance totale et radicale. Et vous aimez cette dépendance. Donc c'est bien l'adoration. L'adoration est un amour par lequel je me relie à Dieu, mais relie à Dieu d'une façon spéciale. C'est, je me relie à Dieu en l'aimant et en m'offrant. Je m'offre. Il y a cette attitude-là dans l'adoration. On s'offre à Dieu. Alors, je crois que philosophiquement, c'est bien cette attitude-là qui est première. Et que si c'est cette attitude-là qui est première, l'adoration va être source, progressivement, d'une vertu qui va être, au point de vue, la vertu de religion. Je crois que c'est ça qui va être en premier lieu. Ensuite, je verrai dans cette adoration, si cette adoration va impliquer un amour personnel. Alors, il peut y avoir une dévotion et une prière. Parce que la prière, moi je mettrais que la prière est peut-être plus proche, hein. Je dirais adoration, prière et dévotion entre les deux. Si je cherche un ordre philosophique, de sagesse philosophique, je crois qu'il y a l'adoration. L'adoration est silencieuse. Elle est silencieuse. Elle est tout à fait personnelle. Premier amour, c'est sûr. Quand je dis premier amour, je ne reprends pas voyez l'analyse. J'ai dit premier amour par rapport à Dieu. Ce premier amour à l'égard de Dieu implique nécessairement une attention. Je m'offre. Alors, est-ce que vous rattacheriez le premier amour à l'adoration, l'intention et le choix ? Oui. On peut poser la question. Oui. Je veux dire, l'adoration, regarde le premier amour. Le point de vue de la dévotion, l'intention, et la prière, le choix. Hein? C'est une question qu'il faut se poser. Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais c'est une question qu'il faut se poser, c'est sûr. Parce qu'il y a l'analyse de l'acte humain. L'analyse de l'acte humain, il est ici, hein, radical. Il est évident que l'adoration est un acte humain dans une nouvelle dimension. Cette nouvelle dimension n'implique-t-elle pas tout de suite après le point de vue du savoir, n'implique-t-elle pas tout de suite un amour, une attention, un choix?
Les trois sont impliqués dans la vie.
Qu'est-ce que la dévotion pour Saint Thomas?
La dévotion, c'est un acte intérieur. C'est l'acte plus intérieur de la religion qui fait que je me relie, je me dévoue, je me... Mais c'est une espèce... La consécration à Dieu va se relever de la dévotion. Ce n'est pas tout ce que nous appelons dévotion habituellement. Une petite dévotion à Saint-Antoine, c'est pas la même chose. Et vous avez la dévotion de vous, je ne sais pas, de vous mettre à la chapelle toujours dans le même lieu, parce que ce lieu est particulièrement obscur, alors personne ne vous voit là, et vous pouvez prier librement, parce que vous êtes... Alors vous avez la dévotion de ce lieu. La dévotion du ciel, et ainsi de suite. Alors la dévotion, c'est une chose beaucoup plus profonde, vous savez. C'est un acte intérieur, c'est l'acte intérieur de la vertu de religion. Mais ce n'est pas l'acte plénier, c'est pour ça que je crois que l'adoration est première. C'est dans une analyse théologique que saint Thomas met la dévotion après, dans une analyse théologique, à partir de la vertu de, dévotion, de religion. N'y a-t-il pas le fait que l'acte premier, le plus simple, le plus profond, je découvre ma dépendance radicale à l'égard de Dieu. Cette dépendance radicale à l'égard de Dieu fait que je l'adore. Tout mon être est remis. Petit à petit, s'acquiert la vertu de religion. La vertu de religion affine, forcément, comme toujours un éditus, affine le sens, mon sens religieux, et va l'intérioriser. Et en intériorisant la dépendance à l'égard de Dieu, j'aurai la dévotion. Et en permettant à l'adoration de s'épanouir les deux mouvements, l'intériorisation et le point de vue de l'extérieur. Alors, j'aurai le point de vue de la dévotion, j'aurai le point de vue de la prière de la demande, et puis j'aurai le point de vue liturgique. Le point de vue du corps. Je vois si vous voulez bien, parce que ce serait intéressant à bien noter pour voir la croissance différente. On va faire comme ça. C'est là où saint Thomas nous aide. Pour ne pas faire un ordre de théologie. Oui, c'est saint Thomas de l'Ordre. C'est pas étonnant. Il part de la vertu de religion. Si vous partez de la vertu de religion, vous partez tout de suite de quelque chose de parfait. L'être religieux qui a la vertu de religion, il est parfait. Il a la vertu de religion. Tandis qu'au contraire, l'homme devient progressivement religieux. On a du temps à évangéliser ou à rendre religieux ce petit païen qui est en nous et qui n'a qu'un seul désir, c'est la fantasia et c'est de pouvoir partir dans tous les sens. Il n'a que ce désir-là. Tandis que là, il va se ligoter, il va se lier avec quelqu'un qui ne voit pas et qui pour lui est source profonde de tout son être. Alors, ce que j'essaie de croire ici avec vous, vous voyez, c'est d'essayer de découvrir génétiquement, en même temps, par le point de parfait, je dirais, le premier acte qui reste imparfait, et qui est un acte d'adoration, que je m'offre à Dieu. Je crois que c'est vraiment l'acte premier de l'homme qui reconnaît sa dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Une dépendance spirituelle, intérieure, une dépendance de son corps, de tout lui-même. C'est pour ça que l'adoration, dimension cosmique. C'est tout mon corps qui s'en
fait. Est-ce que ce n'est pas l'expérience qu'elle commence par une philosophie?
Ah oui, c'est l'expérience, sûrement, c'est le premier. Mais je découvre cette expérience, vous voyez. C'est une question qui est importante. Je peux partir de l'adoration expérience en regardant les autres ou de moi-même. Votre adoration, du moins, l'adoration que nous
avons, exprès après dans l'éthique religieuse. Et alors cette adoration, c'est vrai, j'ai l'expérience de l'adoration. Je sais ce que c'est qu'adorer, je peux analyser ce que c'est que l'adoration. Et je vois que l'adoration, c'est quand même ce lien premier vis-à-vis du Créateur. C'est ce qui me relie au Créateur. Et ce qui me permet de reconnaître, de répondre, une fois que j'ai découvert que je suis dépendant totalement à l'égard de Dieu, je réponds. Ces actes d'adoration multiples vont engendrer en moi un habitus, une vertu. Vertu de religion. C'est comme ça qu'on l'appelle. Une vertu qui fait qu'on dira, cet homme, c'est un homme religieux. Et dans toutes les religions, il y a ça. Il y a ceux qui savent prier, ils prient. Donc, l'adoration, l'habitus. Et à partir de là, il y a donc un affinement, une intériorité. Cette intériorité va, je crois, développer un sens de la prière. Un sens de la demande. Je vais confier à cet être premier tous mes soucis, toutes mes inquiétudes, tout. C'est la prière, ça. C'est le sens de la prière, c'est la demande. Donc, va mettre à partir de là confiance. Dans la prière. La confiance n'est pas donnée tout de suite au point de départ. Il y a d'abord le tremendum. On peut plutôt avoir peur. Peur du Créateur. On a surtout en nous, où il y a des séquelles du péché. Hein. C'est pas très drôle. Alors on s'approche, ce lieu est saint, enfin, des sandales, et on s'approche avec respect. Il y a un très grand respect dans l'adoration. Et le respect, je crois, est quand même premier que j'ai dit. Il y a le tremendum, ça, c'est sûr. Dans l'adoration, il y a cette espèce de sens, de révérence vis-à-vis d'un être qui nous dépasse complètement. Ce n'est que par le sens de la prière, l'intériorisation qui va se faire grâce à l'habitus religieux. Cette intériorité, ce sens de la prière, le sens de la prière me fait confier à Dieu tous mes soucis. Je demande à Dieu tout ce qui m'inquiète. À partir de là, une confiance. Et la confiance va se conduire dans cette attitude de dévotion. Comme ça que je verrai génétiquement la chose. La dévotion étant comme le front très intérieur de l'attitude religieuse. Je suis une âme liée à Dieu, et liée à Dieu dans une totale confiance. Et j'ai une totale confiance en Dieu. Et puis il y a le point de vue d'intériorité, le point de vue d'extériorité. Puisqu'il y a le corps. Alors la prière va s'extérioriser par le chant, par des gestes. C'est sûr, puisque dans l'adoration il y a les deux, il y a l'intériorité et l'extériorité, il y a les deux. Alors ça va être la prière liturgique, et ça va être les sacrifices. La prière, les liturgies, les sacrifices vont être cet aspect qui va s'extérioriser. Je crois qu'on peut établir ça. Alors voyez que nous faisons, si c'est juste, nous découvrons un ordre génétique au plan philosophique, de ce que représente l'attitude religieuse. L'attitude religieuse de l'homme implique adoration, prière, demande, confiance, dévotion. Elle implique liturgie et sacrifice. Réfléchissez à ça en comparant avec saint Thomas. Pour comprendre que l'ordre que nous donne saint Thomas, c'est un ordre théologien, et qu'ici nous découvrons un ordre philosophique. Et c'est important pour nous, parce que si vous prenez un ordre de la théologie, vous l'appliquez directement à la réalité, vous ne comprenez plus rien du tout. Il y a des oppositions entre les deux. Tandis que si vous redécouvrez ça, vous redécouvrez le développement d'une âme religieuse. Qu'est-ce que c'est qu'une âme religieuse? Une âme religieuse, c'est tous ces développements-là qui sont indiqués dedans. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.